le CGRI a visé les positions des terroristes anti-Iran dans le nord de l'Irak. Une Palestinienne a succombé à sa blessure après avoir été touchée par des balles israéliennes. Et le Mali et le Burkina Faso veulent renforcer leur collaboration militaire contre le terrorisme. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le Corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, a une nouvelle fois visé les positions des groupes terroristes opérant dans la région semi-autonome du Kurdistan irakien, près des frontières occidentales de l'Iran. L'armée de terre du CGRI a tiré des roquettes sur les positions des groupes terroristes. Des armes de précision et des drones ont également été utilisés, selon un rapport publié par l'agence de presse Fars News. Entre-temps, le commandant de la base Hamza Sayed al-Shohada du CGRI a annoncé l'arrestation de plus de 100 éléments des groupes séparatistes et terroristes, dont le soi-disant parti Komala et le parti démocratique du Kurdistan irakien PDKI, qui ont contribué au déclenchement des récentes émeutes en Iran. Le général de brigade Mohamed Tari Osanlou a déclaré que les frontières du nord-ouest de l'Iran sont en règle générale sécurisées. Néanmoins, l'ennemi a réussi à faire passer des armes aux mains des émeutiers en Iran. Les groupes terroristes anti-iraniens en Irak sont considérés comme une menace pour la sécurité de toutes les régions. Nous avons eu des discussions avec des responsables du gouvernement de Bagdad et du gouvernement régional du Kurdistan à ce sujet, a déclaré le général. L'Iran a averti à maintes reprises des autorités locales du Kurdistan irakien qu'il ne tolérait pas la présence et l'activité des groupes terroristes le long de ses frontières nord-ouest, affirmant que le pays donnerait une réponse décisive si ces régions devenaient le foyer des terroristes anti-Iran. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a fermement condamné dans un communiqué l'attentat terroriste qui a eu lieu dans l'après-midi du dimanche 13 novembre au cœur d'Istanbul et a fait des dizaines de morts et de blessés. Nous condamnons fermement toute attaque terroriste ayant visé la sécurité de la Turquie et de sa nation, a déclaré dimanche le porte-parole de la diplomatie iranienne Nasser Kanani. Nous nous tenons aux côtés du gouvernement et du peuple, amis et frères, de la Turquie, a-t-il réaffirmé souhaitant un prompt rétablissement aux blessés de cet attentat terroriste. Une forte explosion est survenue dimanche 13 novembre à Istanbul, dans la très célèbre rue commerçante d'Istiklal, près de la place Taksim, en plein centre-ville. Selon un dernier bilan, 6 personnes ont été tuées et au moins 81 autres blessées, dont 2 se trouvent dans un état critique. La ministre de la Famille et des Affaires sociales, Derya Yanik, a écrit dans un tweet qu'un employé du ministère et sa jeune fille figuraient parmi les victimes. Pour l'heure, aucun groupe n'a revendiqué l'attentat. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a dénoncé à la télévision locale un vil attentat, confirmant le nombre de morts et de blessés. Les premières observations laissent suborder un attentat terroriste, a-t-il fait savoir, informant qu'une femme y serait impliquée. Son vice-président, Fouad Oktay, a lui aussi accusé une femme d'avoir déclenché une bombe. Une Palestinienne a succombé à ses blessures après avoir été touchée par des balles de l'armée israélienne à Ramallah. Les forces israéliennes ont tiré ce lundi matin, 14 novembre, sur une voiture dans la région de Beitounia. 2 Palestiniens ont été grièvement blessés, dont une femme qui a succombé à ses blessures un peu plus tard, selon les médias palestiniens. La semaine dernière, un Palestinien de 29 ans, nommé Rafat Ali Abdullah Issa, de la ville de Sanour, près de Jenin en Cisjordanie, a également été tué par les forces israéliennes. Ce lundi matin, des soldats israéliens ont procédé à la destruction de 3 habitations dans le village d'Alminia, au sud-est de Bethléem, au sud de Rots occupé en Cisjordanie. Zaid al-Kawazba, le maire du village, a déclaré qu'un important convoi militaire comprenant des bulldozers blindés avait envahi le village aux premières heures de la matinée. Le dossier controversé des migrants engageant la France et l'Italie fait couler beaucoup d'encre. Les 2 pays s'accusent mutuellement et refusent de reconnaître leurs responsabilités dans la gestion de l'affaire. Après les déclarations du ministre français de l'Intérieur, Gérard Darmanin, qui avait dénoncé le comportement du gouvernement italien, c'est au tour de la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, de s'y coller. Le 12 novembre, la chef de la diplomatie française est revenue lors d'une interview avec Le Parisien sur la gestion européenne de la crise migratoire. Elle dénonce avant tout le manque d'humanité de l'Italie. Compte tenu du refus obstiné et du manque d'humanité de l'Italie, nous avons accueilli exceptionnellement le navire, explique-t-elle en évoquant une très forte déception sur le fond. Il y aura des conséquences si l'Italie persiste dans cette attitude. De notre côté, nous avons suspendu le dispositif de relocalisation de migrants provenant d'Italie et renforcé les contrôles aux frontières franco-italiennes. Il faut rappeler Rome à son devoir d'humanité, en espérant qu'elle comprenne le message d'État et la ministre, cité par le journal du dimanche. Côté italien, la chef du gouvernement, Giorgia Meloni, plaide pour une solution européenne. J'ai été très marqué par la réaction agressive du gouvernement français, qui est incompréhensible et injustifiée, a-t-elle déclaré devant la presse. Paris a en effet annoncé des mesures de rétorsion envers Rome, qui a refusé de faire accoster un navire transportant des migrants, contraignant la France à l'accueillir. Certes, la crise des migrants demande une collaboration collective européenne. La spécialiste des questions de migration du CNRS, Virginie Guiraudon, l'a d'ailleurs affirmé implicitement vendredi 11 novembre devant la presse. En fait, il s'agit plus de mettre en œuvre une décision européenne déjà prise, a-t-elle souligné rappelant qu'un mécanisme de solidarité européen a été adopté en juin. Ce mécanisme prévoit qu'une douzaine d'États, dont la France, accueille de manière volontaire 8 000 migrants arrivés dans des pays dits de première ligne, comme l'Italie. Mais seuls 117 migrants ont été relocalisés à ce jour, suscitant la colère de Rome. Or, face à cette gestion migratoire, l'Italie, avec Chypre, Malte et la Grèce, demande une intervention de la Commission européenne. Ces pays, les plus exposés avec l'Espagne à l'arrivée de migrants, plaident depuis des années en faveur d'un système de relocalisation obligatoire. Dans une déclaration conjointe publiée à Rome, les ministres de l'Intérieur d'Italie, de Malte et de Chypre, ainsi que le ministre des Migrations grecques, ont dénoncé l'idée que les pays de première entrée puissent être les seuls points de débarquement européens possibles pour les immigrés illégaux et ont pointé du doigt les ONG humanitaires, dont les navires privés agissent en totale autonomie par rapport aux autorités d'État compétentes. Le Burkina Faso et le Mali, qui partagent une longue frontière, vont mutualiser leurs efforts et leurs moyens afin de faire face au terrorisme, a déclaré le ministre malien de la Défense, le colonel Sadio Camara, à l'issue d'une visite de travail d'une journée à Ouagadougou, vendredi 11 novembre, a t-on appris de sources officielles. Le ministre malien de la Défense et des anciens combattants, qui étaient accompagnés du chef d'état-major général des armées et de plusieurs officiers maliens, a souligné qu'il était porteur d'un message de fraternité du président de la transition au Mali, le colonel Assimi Goïta, à son frère, le capitaine Ibrahim Traoré. Ces deux pays sahéliens d'Afrique de l'Ouest partagent une frontière longue de 1200 km et sont confrontés à une recrudescence des attaques terroristes depuis 2012 pour le Mali et 2015 pour le Burkina Faso. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Les démocrates conservent le contrôle du Sénat avec la victoire au Nevada. Les démocrates américains ont sauvé leur majorité au Sénat après que la sénatrice Catherine Cortez Masto a été réélue au Nevada. Les républicains, cependant, sont restés sur le point de prendre le contrôle de la Chambre des représentants des États-Unis, alors que les responsables dans certains États ont continué de compter les bulletins de vote lors des élections de mi-mandat 2022. Avec la victoire de Masto au Nevada, samedi 12 novembre, sur son challenger républicain Adam Laxalt, qui avait été soutenu par l'ancien président Donald Trump, la Géorgie est le seul État où les deux partis sont toujours en compétition pour un siège au Sénat. La course en Géorgie devrait se terminer le 6 décembre, mais même si les républicains y gagnent, Une répartition 50-50 des sièges signifierait que le Sénat serait effectivement contrôlé par les démocrates. D'ailleurs, si le sénateur démocrate Raphaël Warnock remporte le second tour des élections en Géorgie contre le challenger républicain Herschel Walker, cela porterait la majorité des démocrates à 51 contre 49 pour les républicains. Cela, à son tour, donnerait aux démocrates un avantage supplémentaire en adoptant un nombre limité de projets de loi controversés qui sont autorisés à être adoptés à la majorité simple au lieu des 60 voix requises pour la plupart des lois. Cependant, la Chambre des représentants penche vers le Parti républicain alors que les responsables continuent de compter les bulletins de vote. Un total de 218 sièges est nécessaire pour obtenir la majorité au corps législatif qui compte 435 sièges. Selon le rapport de CNN concernant les derniers résultats de la course au siège à la Chambre des représentants, les républicains sont en tête jusqu'à ce moment-là avec 211 sièges contre 204 sièges détenus par les démocrates. Les élections de mi-mandat du 8 novembre délivrent traditionnellement un rejet du parti au pouvoir et avec la flambée de l'inflation et la popularité de Biden dans le marasme, les républicains s'attendaient à surfer sur une puissante vague rouge et à gagner la majorité à la fois au Sénat et à la Chambre des représentants. Cependant, la vague n'est jamais allée bien au-delà d'une ondulation. Le fait que les républicains perdent le Sénat soulève des questions sur l'emprise continue de Trump sur le Parti républicain, notamment après avoir soutenu des candidats de droite dans plusieurs circonscriptions clés qui ont perdu comme Mehmet Oz en Pennsylvanie. Des brèches politiques se sont ouvertes, certaines personnalités républicaines éminentes appelant ouvertement Trump à ne pas annoncer sa candidature en 2024, qu'il devrait annoncer pourtant le 15 novembre.